Ben alors, je me présente, donc je m'appelle Rina Sestituarce. Je suis née en Suisse de parents italiens et je suis arrivée à Colmar pour suivre la carrière de mon époux. Après un certain temps sans travail, j'ai trouvé une activité en tant que guide touristique à Colmar. Donc voilà, j'ai fait mes recherches pour expliquer aux gens d'ailleurs la beauté de l'Alsace en général, parce que j'ai fait visiter différentes choses en Alsace. Cathédrale à Strasbourg ou le retable d'Issenheim au musée. Et avec le temps, j'ai découvert vraiment par hasard un article merveilleux d'ailleurs en langue italienne parce que j'ai fait un lapsus sur l'ordinateur. Au lieu de marquer art gothique pour faire une recherche sur l'art gothique, j'ai mis argotica en un seul mot. Et ça m'a donné le mot argot. Et j'ai trouvé un article qui commençait à décrypter la cathédrale, à donner des sens ésotériques à la cathédrale. Ça par contre, ça m'a passionné. Et j'ai mis le doigt dans quelque chose qui ne s'est jamais arrêté depuis. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches infinies dans tous les sens, dans des sites de différentes langues, parce que chaque culture va mettre l'accent plutôt sur un aspect que sur un autre. J'ai fait vraiment des recherches de folie dans tous les sens, y compris dans la physique quantique, dans les témoignages de mort imminente, parce que je me suis rendu compte que la manière dont les sites sacrés nous expliquent l'univers et l'au-delà, ben ça commence à coïncider drôlement avec ce qui se découvre au niveau quantique. Et donc, j'ai mis tout ça ensemble, et jusqu'au jour où j'ai eu des collègues qui m'ont dit « punaise, c'est dommage, tu parles de choses très intéressantes et tout ça, ça va se perdre, tu devrais l'écrire ». Et il y a un collègue en particulier qui me le répétait tout le temps, il s'est même proposé de m'aider à écrire ce livre, enfin en le corrigeant. Et à un moment donné, j'ai craqué, littéralement. Je me suis mise à écrire. Et c'était tout dans la tête, puisque même pas à peine un mois après, le livre était fait. Et donc voilà, j'ai envoyé ce bouquin qui s'appelle « Gothic Quantica », ce premier livre. Et voilà, j'ai trouvé éditeur. Et puis une année après, ben, il y a eu un deuxième livre qui est une réelle conséquence du premier. C'est vraiment la maman et l'enfant. Voilà.
Quel était vraiment le but de ce livre, au-delà de garder une trace de cette réflexion? C'était vraiment de guider le public au sein d'une église, au sein d'une histoire, leur expliquer, leur donner les clés d'explication. Oui. Pour des phénomènes?
Oui, on peut dire ça. Mais c'est un guide d'un autre ordre, pour le coup. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais guide sur Terre, les pieds sur Terre, expliquer la pierre, expliquer l'histoire, donner les dates, des noms, et expliquer deux, trois choses. Mais là, maintenant, si je suis guide, alors ce serait d'un autre niveau. J'utilise la pierre, j'utilise la réalité physique concrète, mais pour s'envoler réellement. Dans quoi? Ben, dans cette perception qu'on pourrait avoir de l'au-delà, il y en a qui en ont concrètement, mais aussi l'idée que peut-être que la physique quantique et les témoignages de mort imminente et certaines découvertes sur le fonctionnement du cerveau commencent à mettre le doigt sur « oulala, c'est peut-être vrai, cette idée qu'il y a un au-delà, qui serait un monde complètement à l'envers par rapport à notre monde d'ici que les alchimistes appellent le monde de l'endroit. Ce sont deux mondes complètement différents, mais qui évoluent en parallèle. Ça me rappelle vraiment Matrix. On voit les personnages passer d'une réalité à l'autre en passant par le téléphone, qui est en fait la colombe que l'on trouve dans les icônes religieuses, le messager. C'est juste un pont. Mais ces deux réalités évoluent en parallèle. Pour les Tibétains, un symbole très fort du monde de l'endroit et du monde de l'envers, c'est le chiffre 8. Et effectivement, quand on dessine le chiffre 8, c'est un symbole, c'est un glyphe. La partie haute, c'est l'au-delà, l'envers. Et la partie basse, le cercle inférieur, c'est notre vie ici concrète. Et le point de croisement, c'est nous. C'est nous entre ciel et terre, en fait. Voilà.
Par la suite, un nouvel ouvrage qui est paru très récemment, oui. Celui-là sur le retable d'Issenheim. Oui. Là, oui. On est beaucoup plus centré.
Ah ouais, alors là, j'avoue que ça y va fort, mais du coup, j'ai osé faire un premier livre, alors du coup, le deuxième, il est sorti de manière naturelle, je peux dire. Effectivement, autant le premier livre est un énorme porte-clés pour comprendre les symboles, la géométrie, les proportions divines, tout ce qui fait qu'on fait une cathédrale et se rendre compte que cette construction est identique dans tous les sites, de toutes les civilisations de tous les temps, en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'on est tous frères, mais vraiment, parce que la pierre nous raconte qu'on explique la même manière, en fait, l'univers. Hein. Et donc, dans ce premier livre, je donne beaucoup de clés. Après, chacun peut aller perfectionner, mais au-delà de donner des clés, j'explique avec les mots très actuels et je fais des liens, là, on n'en ferait jamais. Bon, je ne suis pas la seule à faire ça, mais bon, pour moi, c'était une explosion de découverte que j'avais envie de partager. Et du coup, c'est ce que je dis toujours, ce premier bouquin nous fait porter à une nouvelle paire de lunettes. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne et de tous les jours, tu ne vois plus la vie de la même manière. Mais c'est du vrai, ça. C'est du vrai. C'est tellement vrai que quand j'avais fini d'écrire le premier livre, Gothic Quantica, je continuais à expliquer aux touristes le retable de manière classique. Et c'est une explication qui me va bien à 100%, parce qu'on ne peut pas échapper à une vision, on va dire, littérale de l'œuvre. C'est comme quand tu lis un bouquin. D'abord, si tu dis « je vais à l'école », tu lis « je vais à l'école ». Si maintenant, à travers ça, tu veux dire que je vais à un endroit merveilleux, ça, c'est une autre lecture, tu vois. C'est la même chose. Mais du coup, je me disais, punaise, c'est bizarre quand même. Enfin, disons que je porte une nouvelle lunette et je me rends bien compte que j'ai mis presque 15 ans hein, pour aboutir au premier livre, à mon insu, parce que jamais je voulais écrire un bouquin. C'est simplement que je faisais des recherches, puis chaque fois, je résumais tout ce que je voyais, je lisais dans mon ordinateur. Et j'ai utilisé tout ce matériau pour faire le premier livre. Mais donc, je me disais, c'est bizarre, je vois bien que j'ai évolué, j'ai changé, et je vois la vie différemment, mais ce retable, je le vois toujours de la même manière. Et puis un jour, il y a eu le bouchon de champagne. Mais un jour, ça fait quoi? Genre 6 mois après l'écriture, la publication du premier livre, j'avais un groupe et je regarde le retable, quand il est la première ouverture, tu vois cette crucifixion terrible, où le Christ est en souffrance extrême, et à ses pieds, il y a l'agneau. Un agneau qui porte la croix, bon, c'est l'agneau crucifère, c'est le symbole, un des premiers symboles chrétiens, qui veut simplement, entre guillemets, simplement dire « Jésus, il n'a fait que aimer, et on l'a mis en croix pour ça ». C'est donc vraiment l'agneau d'innocent. Très bien. Mais le problème, si on peut parler de problème, c'est que si on regarde bien cet agneau, il y a du sang qui gicle de son cou et qui arrive dans une coupe dorée, qui est forcément le Graal. Et ça, c'est un problème. Parce que le Graal, ça fait partie d'une mythologie légendaire, historique, je ne rentre même pas dans le débat, mais en tous les cas, ça fait partie de la culture bretonne, donc païenne. Qu'est-ce que vient faire un truc païen en première ouverture, plein centre, au pied du Christ? Alors là, j'ai commencé à mettre le doigt. Parce que quand tu parles du Graal, alors il y a tellement d'interprétations possibles, mais moi il y en a une que j'adore, que Burry Steinas, un alchimiste français tout à fait vivant, qui est ingénieur des matériaux, physicien, dit, et ça me plaît tellement que je le réutilise tout le temps, si on veut comprendre le mythe du Graal, il faut aller dans la langue anglaise, puisque ça fait partie de la culture bretonne. Et en anglais, on dit bien tous les matins wake up, réveille-toi, et le soir on dit bien good night, bonne nuit. Réveille-toi, wake up, ça veut dire aussi la voix de la coupe. Il y a un double sens. Et quand tu dis good night, tu dis pas seulement bonne nuit, mais tu dis bon chevalier. C'est comme si la culture bretonne avait engrammé, codifié de manière cachée, occulte, en double sens, l'idée que nous sommes tous des chevaliers et nous avons tous à trouver la coupe du Graal. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que la coupe du Graal? Vous pensez que c'est aller trouver une coupe où il y a le sang du Christ parce que les chevaliers seraient des draculiens? Ça, ça tient pas la route. Par contre, l'alchimiste sait, celui qui travaille la matière, en pensant que la matière est vivante, alors que nos physiciens actuels pensent que la matière, c'est juste mécanique, les alchimistes ont toujours compris que la matière était vivante et vibrante. La physique quantique leur donne raison, en fait. Hein. Eh bien, à savoir que quand on met de l'eau dans une coupe dorée, et que vous exposez cette coupe à la lumière, cette eau devient rouge. Et c'est pas du sang, c'est de la lumière. Et comme Graal vient du mot Gal, qui veut dire pierre, galaxies, ce sont des pierres autour d'un axe, eh bien, il s'agit de trouver la lumière dans la pierre. Et là encore, la physique quantique leur donne raison. Parce que quand on fait exploser les atomes, à l'intérieur, il y a bien de la lumière, de l'énergie. Donc l'idée, c'est d'aller chercher la lumière dans nos ténèbres. Voilà la quête. Trouver le bonheur, malgré tous vos hauts et vos bas, malgré vos limites, vos culpabilités, vos peurs. Ça, c'est une sacrée quête, et c'est une quête éternelle, et c'est pour ça que le retable, je le dis haut et fort, ce n'est pas un chef-d'œuvre religieux, mais c'est un chef-d'œuvre spirituel. La différence, elle est énorme. Si c'était un chef-d'œuvre religieux, ça veut dire quoi? D'abord, est-ce qu'il est plutôt chrétien ou protestant? Alors là, vous pouvez déjà vous amuser, parce que Grunewald, si c'est lui le vrai nom et le vrai auteur, hein, parce qu'il y en a des choses encore un peu dans la nébuleuse, mais Grunewald était protestant, et il y a des œuvres, des parties du retable qui sont complètement peintes à l'italienne, donc complètement chrétiennes, et d'autres obscures, comme des peintures allemandes, donc germaniques, donc protestantes. Donc déjà là, on s'en sort déjà plus. Mais effectivement, spirituel, pourquoi? Parce qu'à mon avis, le retable nous donne des enseignements de vie, c'est de la philosophie métaphysique en peinture, sur des principes universels et atemporels. Donc quand c'est universel et atemporel, c'est spirituel. Si c'était religieux, le retable aujourd'hui ne nous parlerait plus. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société complètement matérialiste. Alors la religion, ça nous casse les pieds. Et puis, à l'époque de Grunewald, on était entre la déchirure des protestants et des catholiques. Par quel miracle il a réussi à produire quelque chose dans une zone où se déchirent deux religions? Et il est déjà un conciliateur, en fait, Grunewald, parce qu'en mettant des chefs-d'œuvre, des peintures catholiques et protestantes mélangées dans tout ce retable qui est composé de 11 peintures, il est déjà dans chercher la paix, chercher la concordance au-delà des différences. Et ça, ben justement, c'est la quête alchimique. On pourra y revenir parce que c'est quand même particulier, l'alchimie comme cheminement ésotérique, c'est un cheminement bien particulier, quoi.
Comment s'est passé toutes ces, enfin, comment sont passées ces recherches? Parce qu'il doit y avoir quand même un temps de recherche d'historien derrière ça. Il faut ouvrir des bouquins, il faut aller interroger des personnes. Qu'est-ce que ça représente, ce travail?
Alors là, moi, ma formation de base, je suis littéraire et humaniste. J'ai aussi étudié l'histoire. Bref, ça donne certaines connaissances. Ouais, clairement, quand même, dans l'ésotérisme, je peux dire que je suis ni religieuse, ni spirituelle, ni ésotérique, ni alchimique. Parce que si on me met dans un garage avec des fioles, je crois que je vais faire tout péter dans les 3 secondes. Donc, clairement, il a fallu que je m'informe. Clairement, j'ai beaucoup lu, mais beaucoup lu aussi à travers Internet, à travers des recherches sur Wikipédia et d'autres sites, et beaucoup aussi de sites particuliers. Maintenant, je suis membre de différents groupes, même sur Facebook, parce qu'il y a des échanges d'informations qui sont extraordinaires, alors avec des gens passionnés d'histoire, de civilisation, de spiritualité, de la protection environnementale, tous ces thèmes me passionnent, de la physique quantique, pour autant qu'on arrive à vulgariser, parce que je pourrais jamais, moi, faire de la physique quantique comme un vrai physicien au CERN à Genève, par exemple, ça c'est pas possible, c'est pas pour moi, mais aussi avec des alchimistes. C'est-à-dire des gens qui sont au laboratoire. Moi, aujourd'hui, c'est mon challenge, c'est rencontrer un alchimiste qui veut bien m'initier au laboratoire, que ce soit pour m'introduire dans l'alchimie du métal, ce qu'on appelle la voie sèche, que ce soit pour m'introduire dans l'alchimie du végétal, ce qu'on appelle la voie humide. Dans les deux cas, pour moi, c'est une manière de connaître la matière pour qu'elle me renvoie à la connaissance philosophique que j'ai acquise. Il y en a qui font l'inverse, c'est-à-dire il y en a qui étudient la matière pour comprendre l'univers. Et comme nous, on est à l'image de l'univers, on va aussi comprendre soi-même. Par exemple, quand on découvre qu'il y a la lumière dans le cœur de la matière, on sait que la vérité est en nous, que notre lumière, elle est à l'intérieur. Si on attend que les autres vous disent « c'est bien, continue ton chemin », tu peux toujours attendre avant d'être heureux. Mais lorsque tu es convaincu que tu t'aimes même dans tes défauts, alors là, c'est bon. Là, tu as trouvé ton Graal. Bon, alors il y en a donc qui étudient la matière, végétale ou minérale, pour comprendre soi-même. Mais moi, je ne pouvais pas accéder comme ça parce que je n'ai pas assez de notions de chimie et de physique ou d'astronomie, etc. Alors, moi, il se trouve que j'ai fait l'autre porte. C'est-à-dire que j'ai découvert la philosophie de l'alchimiste, la philosophie alchimique au travers de ses gravures, de ses dessins, de ses planches codées, à travers des sculptures que l'on trouve dans les cathédrales ou dans des bâtiments, des maisons qu'on appelle des maisons philosophales, d'accord, ou à travers la construction d'une ville. Il y a des villes qui se sont construites sur des principes alchimiques. Prague, la place Saint-Michel de Bruxelles, Naples et autres. Et voilà, je me suis introduite en fait à cette vision de la vie, du monde, de l'univers, de l'au-delà, de la matière. Et de comprendre, mais c'est quoi cette quête pour nous en tant qu'êtres humains dans la vie de tous les jours. Et donc, à force, j'ai quand même dû m'introduire un peu dans la physique, dans la chimie, dans l'astronomie, à ma foi, à mon niveau, c'est-à-dire très bas. Mais maintenant, mon challenge, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui serait un passionné d'alchimie végétale ou alchimie métallique pour qu'il me dise « viens, je t'explique, je te montre ». Mais pour moi, du coup, le fait d'aller dans le laboratoire, ça me permettra de conforter ce que j'ai pu comprendre en philosophie et certainement aussi d'aller plus loin parce qu'il y a plein de gravures alchimiques. Toutes les gravures alchimiques, en fait, se lisent sur deux plans. Il y a le plan philosophique et il y a le plan, on va dire, physique-chimique, hein, matériel. Moi, j'ai de la peine à décoder un dessin du point de vue physique et chimique, parce que je ne suis jamais allée au laboratoire, ça me manque aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais remplir. Mais au point de vue philosophique, par contre, là, je m'amuse, parce que mon côté humaniste, il n'y a pas de frontières. Contrairement aux physiciens d'aujourd'hui, je ne suis pas limitée à tant que je n'ai pas vu, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas prouvé, je ne le pense pas. Moi, j'ai l'esprit libre, je pense, et puis eux, ils n'auront qu'à prouver s'ils le prouveront un jour, parce que peut-être il y a des choses qu'on ne pourra jamais prouver, mais ça n'empêche pas que c'était vrai. Comme par exemple le fait de croire à l'au-delà. Moi, je pense que c'est physiquement plausible. Voilà.
Après le retable d'Issenheim, oui. Quelle est la prochaine destination?
Alors, maintenant, j'ai une grande destination à moi, c'est de partager quand même ce que j'ai écrit, franchement. Alors voilà, j'aimerais être à la rencontre des gens. Et en même temps, je ne veux pas du tout paraphraser mes bouquins. J'ai vraiment cherché un bon moment et je l'ai trouvé juste avant la période de Noël. Là, j'ai trouvé une idée pour être à la rencontre des personnes qui veulent bien me rencontrer et pouvoir leur partager cette passion de l'alchimie, parce que parmi tous les cheminements spirituels, c'est l'alchimie qui m'a beaucoup parlé, parce que pour moi c'est quelque chose de tellement inconnu, donc voilà, ça m'a attiré comme un aimant. Et en parlant de l'alchimie, chacun pourra après se dire, tiens, j'aimerais voir ça plus précisément, comment j'aborde les choses, au travers soit du livre Gothic Quantique qui nous parle, voilà, de l'ésotérisme général des cathédrales, en lien avec, comme j'ai dit avant, la physique quantique, ou la médecine, ou les autres sites sacrés du monde, ou alors le livre Le Retable d'Issenheim, Grimoire alchimique pour Compostelle, qui lui, par contre, va vraiment démontrer exclusivement la dimension alchimique de ce fameux retable d'Issenheim. Mais chaque fois, je le précise aussi, d'abord je dis la version classique, l'interprétation classique de chaque panneau, et de ça, je vais vers l'alchimie. En d'autres termes, ces deux lectures ne se contradisent pas, elles se complètent. Donc maintenant, mon objectif, je vais me proposer à différentes universités et écoles d'art ou humanistes pour faire une conférence, une grande conférence, elle peut durer même des jours si on veut bien, mais une soirée me suffit, hein, qui s'intitule « De l'alchimie pour construire le monde de demain ». Donc le but, ce sera d'expliquer en gros l'alchimie pour le sortir de ces a priori que l'on a aujourd'hui, de cette espèce de hulu-berlu avec le chapeau pointu et les étoiles et du soufre de partout, parce que c'était quand même un vrai réceptacle de connaissances, cette alchimie, et les alchimistes nous ont apporté beaucoup, hein, en termes de médecine, de connaissances médicales, connaissances physiques, connaissances chimiques, hein, et ça, il ne faut quand même pas, on peut pas leur enlever ça. Et puis ensuite, on va regarder différentes matières alchimiques, ce sont des œuvres. Alors, on peut même partir de la souris verte, que dire de Pinocchio, en passant par les gravures de différents alchimistes de différentes époques, et on passe aussi par les villes, les cathédrales, mais ne serait-ce trois sculptures d'une cathédrale. Enfin, je veux dire, Chartres, il y a des milliards de choses à dire. Moi, je prends trois sculptures, et vous avez un phrasé décodé, c'est absolument lumineux, et je termine par exemple par Matrix. Parce que alors là, Matrix, pour moi, c'est une peinture en mouvement. C'est-à-dire que c'est un des seuls films où on pourrait faire arrêt sur image toutes les trois secondes et regarder la scène, et il y a des milliards de choses à décoder. Et tout coïncide avec l'ésotérisme et l'alchimie. Donc pour moi, c'est nickel. C'est un autre matériau possible.